Donc bonjour à tous, nous sommes en direct à Radio Fréquence Mauges, le nom de la radio des Mauges. Et nous sommes à Saint-Laurent-du-Motay et on lance le défi zéro déchet au Ménil-en-Vallée. Bon déjà ça c'est une partie à couper. Donc nous sommes au Ménil-en-Vallée pour le défi zéro déchet. Et donc à ma gauche j'ai...
Jo Rétoré.
Donc Jo Rétoré va pouvoir nous parler de Superman.
Oui.
C'est ça. Ensuite, à côté, nous avons
Mathieu Perrault.
Ensuite,
Jacques Rétoré.
Nathalie Therrien.
Céline Grasset.
Et donc, voilà. Donc, on va pouvoir discuter de tout ce défi. Donc, en particulier... excuse-moi ton prénom.
Mathieu.
Alors, Mathieu, tu viens de t'inscrire au défi zéro déchet.
Oui.
C'est ça. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le défi en soi?
Nous, ce qui nous intéresse dans le défi, c'est d'essayer de limiter notre impact sur l'environnement.
D'accord.
Voilà, d'essayer de... Ce qui nous tient à cœur aussi, c'est d'essayer de consommer local, sainement aussi, pour nous, quoi. Voilà.
Est-ce que j'imagine que vous savez mieux que moi? Parce que j'ai trouvé un chiffre qui m'intéressait. Vous avez une idée de combien de déchets jette un Français en moyenne chaque année? Est-ce que vous avez une idée?
Je dirais un peu plus de 300 kilos, non?
Alors on a... vas-y.
Un petit peu plus. 570-580 kilos à peu près en moyenne en France.
Voilà. Alors moi, en déchets ménagers, j'étais à 390 kilos par an.
Effectivement, en déchets ménagers, on doit être à 390 kilos déchets ménagers assimilés. Après, c'est la totalité des déchets qui arrivent à 580 kg en moyenne pour un Français, parce que là-dessus, on met tous les déchets produits par une famille, y compris dans les déchetteries, les gravats, etc. Donc, et les déchets industriels. On arrive à 580 kg de déchets en France par habitant. Alors, en ce qui nous concerne, sur les déchets ménagers assimilés, on est effectivement à 380 et quelques kilos.
Et j'avais trouvé... Alors, il y a un livre « Zéro déchet » qui est paru. Alors je ne me rappelle plus du nom et prénom des personnes qui l'ont écrite. Et ils ont fait une certaine vidéo sur YouTube. Et eux, ils ont réussi à avoir 39 kilos de déchets sur un an. Donc ils ont tout un mode de vie. Donc je sais pas si des personnes peuvent me parler du mode de vie qu'ils ont. Par exemple, ils vont faire leur dentifrice eux-mêmes. Donc au lieu d'aller acheter au commerce, ils vont dépenser en tout, ça leur coûte 3 centimes de faire leur propre dentifrice. Donc ça a un impact considérable. Est-ce que vous avez d'autres exemples de choses qui pourraient être assez simples dans la vie de tous les jours qu'on pourrait mettre en place pour limiter les déchets?
Déjà, adopter au niveau de la salle de bain, adopter les produits solides. Éviter d'acheter les savons, le savon liquide. C'est facile d'acheter une pastille de savon déjà. À la base, il n'y a plus qu'un papier en déchets. C'est pareil pour le shampoing, il y a le dentifrice, c'est un bon exemple aussi, le déodorant. Toute la salle de bain peut être appliquée, on peut appliquer ce genre de démarche, on va dire. Après, en fabrication, tout est possible aussi. Après, il y a des recettes, il suffit de regarder sur Internet, des recettes, il y en a des tas. Il suffit d'acheter le produit de base et puis de se lancer, quoi.
D'accord. Et est-ce que ça prend du temps?
En fait, le principe zéro déchet, c'est aussi un peu une remise en cause du mode de vie et de la surconsommation dans laquelle on vit. Et l'idée, c'est que le meilleur déchet, c'est déjà celui qu'on ne produit pas. Donc, pour ne pas produire de déchets, il faut essayer d'acheter, puisqu'on n'a pas le choix, de toute façon, d'acheter des choses, sauf à produire soi-même toute l'alimentation. Mais dans ce cas-là, il faut essayer de trouver des alternatives pour ne pas avoir tout ce qui est sur-emballage. Donc, nous, par exemple, la première chose qu'on a faite, c'est d'investir dans des sacs tissus pour acheter les produits en vrac, la farine, le riz, les pâtes. en tout cas tout ce type de produits. Après, il y a d'autres choses qu'on continue d'acheter parce qu'on est sur le chemin. Voilà.
Et utilisez-vous le... Enfin, êtes-vous à dette ou faites-vous le... vous allez régulièrement au supermarché, vous passez par un circuit court, tout ce qui est agriculture locale, etc., qui n'est pas forcément évident, mais parce que le réflexe général, on va dire, c'est d'aller au supermarché, de prendre ses boîtes, etc., donc à la fin, on a forcément énormément de déchets. Et dans l'idée zéro déchet, c'est aussi de passer par le circuit court, de faire fonctionner l'agriculture locale, enfin, moi, de ce que j'en comprends. Et vous avez des exemples de ça, de... est-ce que c'est simple ou pas? Est-ce que financièrement on s'y retrouve?
Oh bah complètement. Moi, ouais. Franchement, oui, j'ai mille fois oui. Quoi,
oui.
C'est...
Oui.
Ouais, je suis d'accord aussi.
Vous pouvez parler de votre expérience si vous voulez. De...
Bah moi, par exemple, tout ce qui est légumes, je vais directement chez un producteur.
D'accord.
Bio, qui plus est. Enfin après, voilà, il y a la partie zéro déchet, mais il y a aussi la partie
mieux manger.
Mmh. Voilà, c'est la qualité, quoi. Donc, toutes les semaines, on va chez ce producteur avec notre caisse. Donc, il n'y a pas de déchets du tout. Quoi. Là, c'est vraiment zéro déchet. Après, pour tout ce qui est viande, charcuterie, enfin, poisson, on essaye d'aller avec nos tupperwares chez le boucher, chez le poissonnier.
Voilà, donc, si on emporte ces tupperwares, ça fait forcément moins d'emballage. Et donc, voilà.
Bah, ça en fait plus du tout. Parce qu'à partir du moment où... Enfin, du coup, nous, on habite la même commune et le boucher du village, il est OK pour prendre nos boîtes.
Hein. D'accord.
Donc, on ne faut juste pas oublier ses boîtes. Il vient avec nos boîtes et il remplit avec ce que l'on veut. Quoi. Mm. C'est vrai que ce n'est pas forcément le cas en grande surface. Il y a des grandes surfaces qui acceptent, mais pas toutes.
Pas toutes,
ouais. Les grandes surfaces qui sont dans une démarche plus bio, enfin, voilà, je ne suis pas sur un site de marque, mais il y a des réseaux de moyenne surface en bio qui acceptent aussi les contenants. Mais c'est pas non plus la grande distribution, quoi.
Parce que moi, j'avais un chiffre qui était sympa. Si on part du principe qu'un Français jette 1 kilo par an, si on prend la métropole lilloise de 1 100 000 habitants, si on cumule tous leurs déchets, pour donner une image, ça donne la surface d'un terrain de foot rempli de déchets et ça monte aussi haut que la Tour Eiffel. Donc c'est des images assez sympas à se mettre en tête, c'est assez visuel. Et enfin, quand on arrive à voir bien la hauteur et la surface d'un terrain de foot, ça reste assez impressionnant, quoi.
C'est vrai que ça marque un peu. En fait, nous, on a participé au défi en 2016-2017. Et dans le cadre du défi, on a été amené à visiter le centre d'enfouissement technique de Bourgneuf.
Oui. D'accord.
Donc, c'est là que sont envoyés tous nos déchets compostables, mais pas que. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qui n'était pas putrécible dans la poubelle noire, c'était carrément enfoui. Et là, on a vu tout ce qui pouvait sortir de notre propre poubelle, des bouts de plastique, des petites choses qui, enfin les cotons-tiges de, les petits bouts de plastique de coton-tige. Enfin, et quand on voit ça, on se dit, ben mince, c'est enterré. C'est un joli cadeau qu'on fait pour les autres, quoi.
Mm-hmm. Et puis c'est pareil pour le centre de tri de Saint-Laurent.
De Saint-Laurent aussi,
enfin, ouais. Voilà, les déchets sont recyclables, mais quand même, quoi. Enfin, c'est énorme les quantités qui sont brassées tous les ans. Enfin, franchement, j'invite tout le monde à visiter ces endroits parce que c'est vraiment, ça ouvre les yeux, quoi.
Clairement,
franchement, ça vaut le coup. Ouais.
Surtout sur tout ce qui est plastique, quoi. Vraiment le plastique, ça m'a choqué.
Qu'est-ce qui vous a...
C'est aussi l'évolution qui s'est produite depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait l'usine de Bourgneuf, trimécano-biologique, où on enlevait la partie compostable, mais le reste, effectivement, perte de process et les refus allaient directement dans un trou. Avec les consignes de tri qu'on a mis en place en 2005-2008 et les sacs jaunes, on a enlevé une partie de la poubelle noire pour aller dans les sacs jaunes, donc l'usine de Saint-Laurent-des-Hôtels. Dans l'usine de Saint-Laurent-des-Hôtels, on fait un tri. Il y a une partie qui est effectivement revalorisée par des recyclages pour certaines choses ou par des valorisations énergétiques pour les autres, mais il y a aussi du refus encore. Et c'est vrai que la visite de ces lieux-là, il faut venir, hein. faut favoriser les visites. Alors on le fait au niveau des scolaires à raison de plusieurs dizaines de fois dans l'année. On le fait de plus en plus par le biais d'une autre loi dans les entreprises ouvertes. Et puis dans le cadre de zéro déchet, l'opération zéro déchet, on favorise les visites de groupe parce que là, ça ouvre les yeux. Moi, je suis révolté, je suis de Bourgneuf, je suis révolté de voir après 20 ans ce qu'il y a encore dans ce site. Donc on le ferme à la fin 2018. C'est-à-dire qu'on ne va plus enfouir, mais la solution, elle est encore une solution de post-exploitation, c'est-à-dire qu'on a des déchets, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. L'objectif, c'est de ne plus avoir ce genre de déchets qui sont des refus aujourd'hui. Et effectivement, l'opération zéro, défi zéro déchet, il va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut limiter au maximum les emballages. Et on a un sacré travail, parce qu'aujourd'hui, les sacs jaunes, c'est énorme, énorme.
Alors, moi j'avais des... Alors souvent quand j'aborde le sujet avec des enfants, parce que des fois je suis dans les centres de loisirs, etc. Je leur montre une petite vidéo et puis ils découvrent qu'avec un certain nombre de canettes recyclées, on peut faire un vélo. Ça à chaque fois ça leur plaît. Est-ce que vous avez une idée du chiffre, du nombre de canettes qu'il faut pour avoir un vélo? Allez, donnez-moi l'ordre d'idée, on va faire un plus ou moins...
Quand tu dis canette, c'est canette en aluminium.
Voilà, hein, canette en aluminium du style, si je cite des marques, ça va être Coca, Ice-T, Pepsi, si on recycle ce genre de canette. Alors, c'est des marques qui sont très commerciales. Est-ce que des... Enfin, pour avoir, moi, travaillé dans un foyer de jeunes travailleurs sur Angers, on s'est rendu compte que dans la cuisine collective, les personnes ne triaient pas. Et on s'est rendu compte qu'ils venaient de plusieurs régions en France et que dans certaines partie de région, ils n'avaient pas cette habitude de recycler, ils n'avaient pas forcément entendu parler des sacs jaunes, etc. Il y avait des personnes étrangères qui arrivaient en France qui ne voyaient pas l'intérêt immédiat de faire ça. Et on avait fait tout un exercice sur juste le fait de trier et c'était déjà pas du tout évident, quoi. Donc c'était un premier abord.
En fait, je trouve que apprendre aux gens à trier, c'est une bonne chose, mais il faudrait déjà... On prend déjà un peu le truc à l'envers. Hein. C'est qu'on va apprendre à trier ou on invite à trier, mais il faudrait peut-être inviter à acheter autrement.
Mmh. C'est là le défi zéro déchet, c'est vraiment une limitation des déchets, mais qui est générale. C'est-à-dire que limitation des déchets, même sac jaune, quoi. C'est vraiment beaucoup plus large, quoi.
Ou même inviter les industriels à produire autrement, quoi. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, il y a des produits qu'on trouve difficilement sans emballage,
alors que ça
pourrait être produit différemment. Quoi. Voilà.
Après, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça implique une certaine organisation, ce mode de vie zéro déchet. Parce que je disais tout à l'heure, aller chez son commerçant avec ses boîtes, ça veut dire qu'il faut prévoir les boîtes, ça veut dire qu'acheter les légumes dans une AMAP ou chez un producteur ou dans des réseaux qui font des paniers déjà tout faits, ça veut dire que c'est un petit...
Il y a
des créneaux horaires à respecter. C'est entre guillemets, c'est peut-être moins facile que de prendre son caddie, d'aller au supermarché, de le remplir et de repartir. Mais c'est à quel prix aussi? À quel prix des produits qu'on achète? Puis à quel prix de l'impact qu'on laisse derrière, quoi.
Et quel bénéfice ça vous a fait à vous, que ce soit moralement ou par rapport à ça? C'était quoi le déclencheur de tout ça? C'était la visite? Il y a eu un déclencheur, une rencontre
C'était la naissance de mon premier fils.
D'accord.
Les couches, tout bêtement. Les couches, c'est hallucinant, les volumes de poubelles qu'on remplit avec des couches pour un enfant. Quoi. Donc moi, ça, la première chose que j'ai fait, c'est les couches lavables, passer aux couches lavables, en fait. C'était ça, le déclencheur. Et après, une fois qu'on se lance là-dedans, on finit en regardant encore nos poubelles et on trouve toujours des déchets qu'on peut supprimer. Quoi. Mais oui, comme dit Céline, ça demande de la volonté et puis... la motivation aussi, hein, je pense. Ouais.
Et puis une cohésion d'équipe, je veux dire...
c'est un mouvement familial.
Un mouvement familial, oui. Parce que c'est vrai qu'au tout début, nous, on a 3 enfants, dont 2 ados. Quand on n'a pas habitué les enfants plus petits à pas avoir le gel douche qui sent bon, le pipi qui fait bien, c'est pas facile non plus. Quand on est à... La période de l'adolescence, il y a aussi un...
Oui.
Il y a aussi...
On n'y est pas encore. Mais...
il y a aussi cette étape à passer de
le
faire
regard des autres, aussi,
le regard des autres, etc. Et je trouve que... Enfin, moi, contente quand il n'y a pas très longtemps, un de mes enfants est allé chez un copain et expliquait comment lui vivait. Et du coup, il se rendait compte aussi, dans l'autre famille en question, la manière dont... des déchets qui pouvaient être produits et finalement en revenant à la maison il dit ouais tu vois finalement c'est pas si mal que ça quoi.
Ouais, c'est un peu la récompense à la fin de
la petite victoire
et oui ça m'étonne pas.
Mais on est aussi sur une phase importante de société aujourd'hui, c'est-à-dire que les déchets ça a toujours été un sujet sensible mais c'était un sujet qui était exploité que sur la partie élimination. C'est-à-dire que les gens, on les a habitués à mettre un sac poubelle sur leur trottoir et puis c'était terminé. Alors ce mouvement qui a démarré il y a 50 ans à peu près de collecte de déchets, plus ou moins il y a 50 ans, mais beaucoup il y a 30 ans, en fait on a enlevé de l'esprit des gens que c'était un problème.
Oui.
Aujourd'hui, on surfe sur une vague environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète va mal. Les mouvements pour revenir à quelque chose de plus sérieux en termes de consommation se développent. Et nous, on va surfer sur cette vague-là parce que le discours qu'on a aujourd'hui, on était quelques-uns à l'avoir il y a 10 ans, mais on était très minoritaire. Donc aujourd'hui, ce qui se fait, c'est de faire le chemin inverse, de faire voir et de faire prendre conscience à la population que ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, le plastique va polluer notre planète d'une manière super importante parce qu'on doit avoir un système de consommation qui a 3,5 fois ce que la planète peut absorber. Je parle pour l'Europe, en Amérique c'est 5. Hein. Donc arrivé à un moment, il va falloir que tout ça bouge. Donc aujourd'hui, effectivement, il y en a qui prennent conscience. Encore une minorité. Et là, c'est des actions comme celle-ci qui peut permettre de faire prendre conscience à d'autres personnes. Mais il faudra une dizaine d'années ou une vingtaine d'années pour revenir dans une conception de produit qui soit respectueux de la planète.
Dans du bon sens. Hein.
Au niveau des emballages, aujourd'hui, il y en a combien qui ont pris conscience que les emballages, c'était un problème ? Pas tant que ça. Les entreprises aujourd'hui qui font des efforts, elles font des efforts sur leur emballage en termes de poids, mais pas en termes de nombre. Hier, on était à une réunion où on se disait que dans le pays des Mauges, au niveau des sacs jaunes, on avait une progression de 4-5%, etc. Entre 2015 et 2016. Le problème, c'est qu'on a une progression de 4% en poids. Mais en volume, la progression elle est de 12 ou 13% sans doute. Pourquoi ? Parce que les professionnels, aujourd'hui, sont axés sur le poids de leurs emballages. Je prends toujours l'exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, il y a 10 ans, et celle d'aujourd'hui, elle a baissé de poids de moitié. Elle est plus solide, elle est plus légère. La preuve, c'est qu'on l'écrase avec les mains, mais elle ne se casse pas. Il y a 10 ans, elle était plus lourde. Pourquoi ? Parce qu'on les a taxés sur le poids. Tant qu'on n'ira pas plus loin dans la démarche pour des consignes, etc., la bouteille de plastique a un avenir certain. Oui. Donc, les emballages ou les sur-emballages, on parle de sur-emballage, etc., ils ont fait des efforts sur la technique, mais ils n'ont pas fait des efforts sur une recherche différente de transporter leurs produits. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps. Donc les exemples avec les familles zéro déchet, c'est des exemples sur lesquels nous on va pouvoir s'appuyer pour dire qu'on a une autre façon de procéder et on n'est pas anti-évolution en ayant des produits qu'on fabrique soi-même et respectueux de la nature, etc. Alors ça va aussi avec le mouvement du retour du bio ou de l'environnemental acceptable. Et là, on a un gros travail de fond à faire. Mais c'est vrai que Faut y aller maintenant. C'est une sorte de vague qui arrive là et qui va nous permettre d'aller encore plus loin.
Puis j'ai pas l'impression qu'on soit des extraterrestres à avoir un mode de consommation qui fait plus, enfin qui pour moi je trouve fait plus appel au bon sens qu'à.
Non, tout à fait.
De toute façon, quand on voit quelqu'un comme Jérémy Pichon qu'on a fait venir, vous étiez la soirée où il a expliqué sa façon de faire. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est déconnecté de la vie moderne. Au contraire, il est dedans. Alors, il a un mode de vie qui est certainement plus contraignant que d'aller à la grande surface, mais il s'y retrouve largement, financièrement,
en qualité
de vie, en qualité de nourriture, etc. Il le dit ouvertement, il est connecté à la vie, parce que lui, c'est un journaliste, il a un téléphone, un ordinateur et une voiture. C'est les seuls trois produits qui lui posent problème aujourd'hui. Mmh. Le reste, il a éliminé ses déchets, il fait, avec sa famille, ils sont quatre, ils font un bocal de déchets par an, un bocal.
Ouais, c'est les...
Au début, ça peut paraître contraignant, c'est vrai, mais n'empêche que ce qu'il nous a expliqué, tous les 15 jours, il va acheter sa viande chez son boucher, ses légumes, sa cagette de légumes chez son producteur local, et puis il consomme bio et de saison. Il va régulièrement à son petit commerçant du coin qui fait boucherie, etc. Et globalement, il s'y retrouve. Par contre, effectivement, c'est une autre façon de vivre.
Mais financièrement, c'est vrai qu'on s'y retrouve parce qu'en fait, on n'est pas tenté par les sirènes de la grande consommation. Quand on rentre dans une grande surface avec un grand caddie, qu'est-ce qu'il nous dit le caddie ? Remplis-moi, remplis-moi. Quand on va dans un petit commerce avec son petit panier, quand le petit panier est rempli, déjà, il est lourd. et puis financièrement, on s'y retrouve vraiment. Même si c'est vrai que d'aller dans les circuits des réseaux de vrac, enfin moi, à proximité, c'est sur la Biocoop, c'est vrai que c'est des produits qui sont, qui sont plus chers à l'achat, mais on en achète moins. Et on n'est pas tenté par un tas d'autres trucs qui finalement servent à rien.
Mais par contre, après, ça vous impose de cuisiner, de savoir, correctement utiliser les légumes. C'est vrai que c'est plus simple de
d'ouvrir prendre une brique,
ouais. dans l'idée. Après, l'idée générale, une personne qui considère qu'elle a pas le temps parce qu'elle rend du travail, elle est fatiguée, et puis elle décide
c'est vrai.
Ça va être leurs arguments
Ça demande une petite organisation aussi, mais je pense que on peut facilement prévoir ces menus pour la semaine, prendre, je sais pas, un dimanche après-midi ou un samedi après-midi, se mettre à cuisiner avec ses enfants pour avoir des repas prêts plusieurs soirs de la semaine.
Et puis ça crée du lien entre eux, ça permet de pas de rester devant la télé.
À mon avis, un point qu'on n'a pas encore parlé, c'est que on s'y retrouve économiquement, au niveau relationnel aussi, c'est-à-dire que quand on va dans une petite épicerie pour faire ses courses, c'est autrement plus intéressant que d'aller en grande surface où en fait on croise des caddies mais on parle à personne. Voilà. Et ça c'est important. Après ça, on cuisine avec nos enfants. Enfin, voilà,
ils adorent ça.
Ils ont envie de ça.
Ça permet de prioriser. C'est vrai que nous, par exemple, je joue avec ma femme le soir, on cuisine, mais on n'a pas de télé. Voilà, c'est-à-dire que ça on fait des choses différentes. Quoi.
C'est une question de choix. Enfin, aussi une génération qui sommes absorbés par d'autres choses que des choses
on va très vite.
De base. Mmh. Mmh. Les téléphones, les télés, les écrans.
Pour vous, c'est un vrai problème de société en règle générale.
Les prochains défis, ce sera les défis contre zéro les écrans.
Les écrans,
ouais. Tu vois, ça viendra.
Il y a sûrement une démarche à faire auprès des jeunes. Quoi. Je pense que le message, il faut le transmettre aux jeunes dans les écoles. C'est dès le plus jeune âge qu'on va leur donner les bonnes habitudes, leur transmettre les bonnes valeurs. Quoi. Je pense que c'est ça la base.
Du coup, il y a aussi peut-être toute une réflexion éducative de qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes à l'école.
Oui, je pense qu'on a été, on est encore d'ailleurs dans une période où on dit ça se recycle, ça ne pose pas de problème.
Oui, voilà,
on a été des années à dire on a l'impression que ça pose moins de problèmes.
Parce qu'on sait pas, ça se voit pas quoi.
Mais en fait, c'est complètement faux parce qu'on consomme énormément d'énergie, ça coûte énormément d'argent. Donc ce n'est pas la solution. La solution, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'emballage à l'origine. Supprimer l'emballage à l'origine ou en avoir le moins possible.
Un petit geste tout simple que je vois adopter par chacun, c'est quand on va à la boulangerie, arrêter de prendre sa baguette dans le petit sachet en papier qui va bien.
C'est que du marketing, ce petit sachet en papier en plus.
La première chose qu'on fait, c'est le jeter quand on arrive à la maison.
Est-ce qu'il y a la petite pub dessus, petit côté commercial
Parce qu'on ne veut pas mettre de farine dans sa voiture, enfin je sais pas, mais c'est tellement simple d'avoir un petit sachet tissu dans son sac ou même ne pas prendre de sachets, quoi. Je veux dire, c'est un peu de farine dans la voiture, c'est pas très grave non plus.
Ça n'existait pas en fait avant. Hein. C'est soi-disant le modernisme qui nous a amené ça. C'est pas du bon sens quand même. Hein. Faire des emballages pour 30 secondes.
C'est ça, complètement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'emballage. Celui-là, c'est le premier qui me vient à l'esprit, qui sert à rien.
Celui qui me pose le plus de problèmes, ça reste le plastique. Aujourd'hui, c'est une catastrophe mondiale. On est envahi par le plastique. On en trouve partout, dans nos rivières, dans nos océans, dans nos campagnes.
Dans notre alimentation, parce que ça arrive.
Il y a urgence. Alors le papier, je suis complètement d'accord qu'il faut arrêter ce genre de pratique. Mais le plastique, c'est une catastrophe internationale.
Et qu'est-ce que pensez de l'idée des commerciales d'arrêter le plastique et d'avoir un sachet recyclable qu'ils mettent en place maintenant dans les commerces? C'est devenu obligatoire.
Aujourd'hui, on favorise par exemple effectivement le sac tissu réutilisable. Aujourd'hui, c'est assez facile. Le plastique, on peut s'en passer. Et puis après, il y a des emballages. On parlait des bouteilles tout à l'heure. Il faut qu'on revienne à la consigne de verre. Il faut qu'on revienne à des éléments comme ça. Le plastique, on disait que ça se recyclait 7 fois. Alors oui, ça se recycle 7 fois. Comme disait Jo, c'est de l'énergie, énormément d'énergie. Alors ça devient intéressant aujourd'hui techniquement parce que le bilan énergétique et consommation est à peu près identique. Mais n'empêche que ça reste toujours de l'énergie. Avec la consigne en verre, on arriverait à réduire cette demande en énergie. recycler du verre, c'est pareil, on recycle le verre à 90 ou 95%, n'empêche que c'est de l'énergie aussi. Donc il va falloir faire un bilan environnemental de système de nettoyage, de lavage du verre pour savoir si ça vaut pas le coup de revenir. Les premières études nous laissent penser que c'est sans doute plus intéressant. Par contre, c'est effectivement plus contraignant parce qu'il faut mettre de la logistique en place, etc. Et, mais n'empêche qu'il y a des choses qui sont faisables. Le plastique, aujourd'hui, on le recycle 7 fois, mais au bout de 7 fois, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, ça va faire du tuyau, des trucs comme ça, etc. Il y en a une partie peut-être, mais sur le principe, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de plastique qui se retrouve dans les décharges de nos rivières. Donc, il y a urgence, il y a réellement urgence. On est rendu à je ne sais pas combien de continents à se balader sur les océans parce que ça va dans notre petit ruisseau qui va dans la Loire et qui va dans la mer.
Dans les poissons.
Et en France, on n'est pas les plus mauvais. C'est pire dans certains pays où la décharge est carrément au bord de la mer.
Et sans compter les déchets dans l'espace, enfin, c'est encore notre domaine, mais enfin, des fois, on voit des vidéos, ils en parlent. C'est assez impressionnant.
Non, je trouve ça intéressant l'histoire des plastiques dans les mers et les rivières. Moi, de mon point de vue, dans mon cas, je suis pêcheur professionnel sur la Loire et je peux vous dire que je pêche une quantité de déchets plastiques assez importante. Et d'ailleurs, je serais assez intéressé pour participer à une campagne de sensibilisation là-dessus parce que je pense que si je ramassais tous les déchets que je pêche, ça représenterait un beau volume annuel, quoi. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Parce que bon, là, en ce moment, là, c'est très beau. La Loire, on la voit, elle est en crue, c'est superbe. Mais bon, moi, il n'y a pas une crue où, pendant laquelle je croise pas un sac poubelle noir noué qui flotte et qui dévale la Loire, quoi. Voilà. Bon, ça me révolte, hein.
Il y avait un chiffre de fou, je sais plus, sur 1 km sur l'autoroute, combien de déchets on croise mais qu'on ne voit pas. Il y a un chiffre assez intéressant là-dessus, de gens qui jettent assez facilement sur... C'est dingue, quoi. Mais bon, ça va, je pense que ça va, c'est des choses qui vont mettre du temps, en espérant que les générations futures arrivent à en prendre conscience rapidement, quoi. Ça va être par des actions toutes simples. Donc là, c'est le Centre social Valmoche par le biais du groupe Éco-Citoyenneté qui a mis ce défi en place. C'est Monsieur Jo.
Oui, là, c'est le défi Superman, une opération qu'on avait fait l'an dernier. Superman, c'est un personnage imaginaire qu'on a voulu représenter pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est cette deuxième opération cette année avec la récupération de légumes dans des commerces du coin sur la commune Mauche-sur-Loire et donc des légumes qui sont invendus ou qui sont légèrement abîmés et avec ces légumes on peut donc fabriquer une soupe ou faire d'autres recettes cette opération a pour le but de sensibiliser les gens et de les inviter à faire des soupes, à faire des recettes pour éviter le gaspillage alimentaire.
Est-ce que vous avez d'autres projets prévus dans les prochains mois ?
Au niveau du groupe Éco-Citoyenneté, on fait des petites actions au cours de l'année, au cours de la semaine du développement durable. Des actions sur les économies d'énergie pour éviter les pollutions, jardiner au naturel également.
Il y a eu le spectacle Manger que je suis allé voir à Mont-de-Jean. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ce spectacle.
Tout à fait.
Et il était... moi, j'ai trouvé ça excellent. Il était très bien construit. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde. Je trouvais ça dommage. Mais vraiment un très, très bon spectacle.
J'y suis allé aussi. J'ai trouvé en effet que le spectacle était très bien joué. On a beaucoup ri. Mais c'était assez effrayant quand même. C'est-à-dire que... Nous, on est ressorti du spectacle et on s'est dit oula quoi, dans quel monde vit-on et
en effet, on se prend une claque un peu dans l'idée.
Et on se rend compte de ce qu'on peut nous faire manger finalement, réellement quoi.
Ils font ça depuis. Ils ont joué leur spectacle plus de 300 fois, ils ont eu plusieurs prix, un prix à Avignon et c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur quand ils sont venus. Ils voulaient manger d'une certaine façon, mais parce que c'est vraiment leur principe de vie, et ils portent ça fièrement. Et puis le spectacle, il était. Puis pareil, c'est pas des gens qui sont déconnectés quoi. On peut avoir cette image là de personnes qui font un peu babos et qui sont un peu qui sont pas dans la vraie vie, qui sont complètement déconnectés, qui et en fait on se rend compte que bah pas du tout, et c'est
tout
et comme vous disiez quoi, c'est du bon sens, et qu'à un moment va peut-être falloir ouvrir les yeux. Moi, on m'avait emmené quand j'étais jeune dans un endroit où on enfouissait les déchets nucléaires. C'était, enfin, ils ont dit qu'il y en a pour des millions d'années, le temps que ça se détruise. Merci pour la suite. Quoi.
Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures, nos descendants? Tout à fait. Et quand on parlait de la troupe de théâtre, là, je pense qu'ils ont laissé passer un message assez large au niveau des traitements qu'on utilise dans l'industrie, dans l'agriculture, le mode de consommation. Ils ont eu un éventail assez large de notre société d'aujourd'hui avec son mode de consommation.
En parlant de mode de consommation, il y a un sujet qu'on n'a encore pas forcément beaucoup abordé, mais qui sont les produits d'entretien. C'est-à-dire que là, il y a des actions sur les produits d'entretien pour limiter les emballages, mais on a quand même un gros problème de produits d'entretien où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, où personne n'est trop attentif sur la conception du produit. Et aujourd'hui, s'ils sont autorisés, ils sont censés, dans la tête des gens, être inoffensifs, ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a des histoires de dosage, de produits d'abord, après il y a des histoires de dosage. Et aujourd'hui, tous les surdosages, on les retrouve dans nos stations d'épuration, qu'elles soient autonomes ou qu'elles soient collectives. Parce qu'en fait, mettre un produit en surdosage et puis vider le seau dans les toilettes, c'est un geste que tout le monde a, tout le monde, sans exception. Et ces produits, on les retrouve dans nos stations d'épuration, qui sont des stations qui ne font que de la dilution ou de la dégradation organique, mais surtout pas de la dégradation chimique. Il y a quelques petits effets chimiques qui se font, et on retrouve ça dans nos ruisseaux et on retrouve ça dans nos rivières. Donc aujourd'hui, maintenant, il va falloir se poser la question quand même de ces concentrations-là. On a des analyses qui sont faites sur nos eaux de rivière ou de ruisseaux. Depuis 11 ans, ça s'est dégradé. Alors, pour deux raisons. On a cherché des molécules qu'on cherchait peut-être pas il y a 10 ans, mais n'empêche que sur celles qui étaient présentes il y a 10 ans et aujourd'hui, on a des taux qui commencent à augmenter. Et là, c'est un vrai problème aussi environnemental. Donc, sur la problématique des emballages, il va falloir qu'on greffe cette problématique d'éducation aux produits. Et là, ça peut devenir grave. On a une acidification aujourd'hui de nos océans, ça ne vient pas de nulle part. Alors, c'est peut-être une petite partie, mais n'empêche que c'est une partie qui va certainement prendre de l'ampleur dans les années à venir.
Et donc, on va arriver à la fin de notre émission. Vous allez être surpris du temps qu'on a passé à discuter. Alors, je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez chacun dire un petit mot pour terminer. Voilà, dans l'ordre que vous voulez.
Moi, je voulais juste dire qu'on s'est lancé dans le défi vers le zéro déchet, pour aller vers le zéro déchet. On n'est pas une famille parfaite, il y a encore plein de trucs qu'on fait. Et puis je pense que tendre vers être parfait, ça n'existe pas. J'essaie juste qu'à mon niveau, c'est en rapport avec nos valeurs, de faire ce qu'on peut, autant qu'on peut, le plus possible. Mais il y a toujours des marges de progression. Et puis je pense que si tout le monde fait un petit peu, je ne vais pas reprendre la célèbre phrase de Pierre Rabhi, mais si tout le monde fait un petit peu, ça ira bien pour tout le monde.
On termine là-dessus ? Bon, je vous remercie.
Merci.
Fréquence.
Fréquence, mauvaise fréquence.